Bon, merci à tous d'avoir d'être de retour, plus ou moins de retour. Nous allons continuer avec un échange entre un fournisseur et un établissement, histoire de bien concrétiser les choses dont nous parlons. J'appelle donc Vanessa Karabetian et Emmanuel Leruyer, donc Société Aquarel et Musée d'Orsay. Merci à vous deux.
Bonjour, merci de votre invitation et de participer à cet échange. Donc, je vais juste commencer par introduire le musée d'Orsay. Je vais peut-être laisser Monsieur Leruyer présenter le musée, qui est notre partenaire aujourd'hui depuis plus de 15 ans.
Ouais. Bien, bonjour à tous. Donc vous connaissez sûrement tous le musée d'Orsay. Voilà, je n'ai pas mis lunettes. Qu'est-ce qu'on a écrit? Voilà, donc c'est un établissement de première catégorie qui a ouvert en 1986 et qui accueille principalement la période d'impressionniste. Nous avons 150 000 œuvres et nous en présentons à peu près 33 000. Voilà, nous avons à peu près 3 275 000 visiteurs en 2022 plutôt. Et donc, nous avons 99 000 moins de 26 ans. Et on a une moyenne de visiteurs de à peu près 11 000 visiteurs par jour. Voilà, vas-y.
Alors, je vais présenter rapidement Aquarel sans vous noyer sous un discours commercial qui n'est pas le but de la journée aujourd'hui, mais au moins pour présenter ma société, donc, qui est une entreprise française, une entreprise familiale qui est située alors plus exactement à Saint-Péret en Ardèche, de l'autre côté du Rhône à Valence pour ceux qui connaissent mieux. Une société qui existe donc depuis 1989 et qui est spécialisée dans le comptage de précision. On est donc au cœur du sujet. Une société qui fait 7 millions de chiffres d'affaires, qui a plus de 45 clients et qui a plus de 14 000 capteurs installés à ce jour. Voilà. Nous travaillons avec le musée d'Orsay, donc comme je disais en introduction, depuis une quinzaine d'années. Nous avons commencé avec différentes technologies qui sont effectivement bien détaillées dans le petit livret que vous avez, puisque les technologies ont évolué au cours des années. Aujourd'hui, la solution qui est installée est la solution la plus aboutie en termes de précision. C'est donc un capteur stéréoscopique 3D qui est présenté ensuite. L'objectif du musée d'Orsay de s'équiper d'un système de comptage avait différentes attentes. Bien évidemment, connaître quelle est la fréquentation journalière du musée, de pouvoir gérer la jauge visiteur au regard de toutes les règles de sécurité, la répartition également de ces flux de personnes au travers des différentes expositions temporaires, et bien évidemment de pouvoir communiquer au public les créneaux qui sont les moins fréquentés et de pouvoir donner un temps d'attente au public. Donc le système installé le capteur qui est présenté en haut, donc un capteur 3D qui donc se positionne en zénithal, donc qui fait du comptage de tête, donc qui est complètement compliant avec tout ce qui est RGPD et CNIL, puisqu'il n'y a pas de reconnaissance faciale. On a juste besoin du passage d'une tête, d'un objet en fait, pour vulgariser cela, qui est immédiatement transformé en algorithme de comptage. Ce système-là permet donc de donner un affichage sur l'image que vous avez en haut, sur la présence du nombre de personnes présentes à l'intérieur du musée. Donc là, on va parler effectivement, comme disaient les personnes présentes avant, du taux d'occupation, donc le nombre de personnes qui sont entrées moins le nombre de personnes qui sont sorties. Donc on a un taux d'occupation. On a également la fréquentation. Et donc ça, c'est pour l'intégralité du musée. Et ensuite, sur différents espaces, à savoir les expositions temporaires, où les agents de sécurité ont une petite tablette sur laquelle qui leur permettent en fait de mesurer en temps réel, là c'est important d'avoir l'information en temps réel, du nombre de personnes présentes pour pouvoir laisser passer ou arrêter les flux de visiteurs. Au niveau des informations qui sont restituées, donc comme on parle de temps réel, il faut pouvoir avoir une information qui soit la plus fiable et la plus simple aux utilisateurs. Donc il y a au niveau du PC de sécurité et de la salle de contrôle ce genre d'écran, en plus donc des tablettes qui sont données aux agents de sécurité. Et là, sur les exemples, vous avez typiquement les informations dont dispose aujourd'hui le musée d'Orsay. Donc, les petits bonhommes que vous voyez sont le nombre de personnes présentes au niveau soit des expositions, soit au niveau de l'intégralité du musée, avec un code couleur orange, puisqu'il y a une préalerte qui est enregistrée sur un nombre de personnes autorisées à entrer. Par exemple, sur l'exposition Van Gogh, à ce moment précis, 623 personnes étaient présentes, soit ce qui représentait 96% de la charge autorisée. Donc il y a une préalerte qui est donnée visuellement au niveau du musée. Et si on passe sur l'écran suivant en rouge, on est arrivé à 654, où là on est à 100% de la jauge, et donc là c'est rouge et on ne fait plus rentrer tant que la jauge n'est pas descendue. Voilà visuellement ce qui est présenté. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Si vous avez des questions. L'idée, c'est aussi d'avoir, je rebondis par rapport à ce qui était présenté avant, c'est qu'effectivement, il n'y a pas toujours à l'intérieur des établissements des gens qui sont agiles au niveau de la gestion des données. Et c'est d'avoir une solution qui vous restitue immédiatement une donnée précise sans avoir à faire des manipulations, sans avoir à faire des relevés, sans avoir à rentrer des chiffres. Vous avez immédiatement, visuellement, en temps réel, le nombre de personnes présentes sur des tableaux de bord et bien évidemment la possibilité a posteriori de pouvoir générer des rapports de fréquentation à la journée, au mois, à l'année, pouvoir faire des comparatifs. Toutes les données après sont manipulables et sont visualisables a posteriori.
Combien est-ce que vous avez de caméras? Et est-ce qu'elles sont toutes de la même nature ou de la même puissance en fonction des espaces dans le musée ? Qu'on imagine quand même avoir des espaces différenciés, des espaces un peu cathédrales. Comment ça se passe ?
Alors, en termes de matériel, comme je disais, comme ça fait plus de 15 ans qu'on travaille ensemble, il y avait différentes technologies qui étaient en place. Aujourd'hui, on a progressivement... Voilà, quasiment tout migré sur le 3D, on n'a pas besoin d'avoir un nombre de mètres carrés. En fait, ce qu'on a besoin, c'est de borner toute entrée et toute sortie. En fait, le principe d'un système de comptage et d'un système pour avoir une jauge de sécurité, un taux d'occupation, c'est de rentrer tout ce qui rentre et tout ce qui sort. Donc aujourd'hui, quel que soit, en fait, on pense à la grande nef. En fait, ce qui est important, c'est de pouvoir border tout ce qui est entré et sorti au niveau de ces endroits-là. Donc c'est ce qu'il faut prévoir en fait à la base. Donc après, en termes de nombre de matériel, je l'ai plus en tête, mais il doit y en avoir une quinzaine, une vingtaine, ouais, à peu près.
Et c'est le même type de matériel en 3D qu'on utilise, puisqu'on a à peu près toujours les mêmes type de hauteur.
Alors, je n'ai pas la mémoire de la manière dont on réservait des billets pour les expositions temporaires au musée d'Orsay avant le Covid, mais désormais, il y a des créneaux horaires à choisir.
Ouais.
Dans quelle mesure ça a changé, en fait, l'administration de la jauge, vos pratiques de mesure de fréquentation ? Je ne sais pas, par rapport au public, est-ce que les gens réservent forcément ? Il n'empêche que même lorsqu'on réserve, c'est les expos temporaires, il y a un flux pas possible, quoi.
En fait, les taux de ça joue surtout pour les l'accueil des groupes. En fait, on interdit des zones et des créneaux horaires pour les groupes quand la jauge est importante. Donc, quand on prévoit les pics de fréquentation, ben on privilégie les entrées groupes plutôt le matin et plutôt en fin d'après-midi. On interdit des créneaux de réservation pour les groupes dans la journée. C'est ce que nous a permis de constater la fréquentation.
Moi, je parlais des créneaux de réservation individuelle, en fait. Enfin, dans quelle mesure ? Parce que ça, c'est, on n'est plus en période Covid, mais c'est resté. Donc...
Honnêtement, là, typiquement pour Van Gogh, les créneaux, ils sont full en permanence. Donc, on n'a aucune marge de manœuvre. On sait que... Tous les créneaux proposés sont vendus immédiatement, donc on constate simplement qu'on a une taux de fréquentation qui est au maximum des capacités d'accueil.
J'aurais voulu savoir les capteurs stéréoscopiques, à quelle hauteur vous les placez, est-ce qu'il y a une hauteur maxi, et avec ça, est-ce que vous évitez un effet grappe?
Alors oui, effectivement, pour faire très simple, il y a des abacs, mais pour faire très simple, hauteur égale largeur. Donc si je positionne à 3 mètres de hauteur, je vais couvrir à peu près 3 mètres de large. C'est un peu plus, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. La hauteur maximum est de 6 mètres aujourd'hui. Donc 6 mètres va couvrir à peu près 7 mètres de large. Et oui, c'est pour ça que je disais que c'était la technologie la plus aboutie aujourd'hui, contrairement à, par exemple, je suis désolée, ce qu'on présentait à la BPI avec les systèmes qui sont sur le côté, ou quand il y a effectivement des phénomènes de personnes qui passent côte à côte, ben forcément, on va en oublier, ou des phénomènes, comme vous dites, de grappe. Là, comme c'est au niveau de la tête, du comptage génital, le 3D permet de... On ne va pas rentrer dans de la technique, hein, mais permet de délimiter des zones de barrières de franchissement, en fait, sur lesquelles on va mettre une barrière virtuelle, par exemple comme ceci et comme cela, et on dit que tant que ces deux barrières n'ont pas été franchies, la personne n'est pas comptée. Au même titre que si la personne avance et fait demi-tour avant d'avoir franchi la deuxième, elle n'est pas comptée. Au même titre que dans le cadre de piétinement ou dans le cadre de queue, les gens qui sont, tant qu'elles n'ont pas franchi ces deux barrières-là, elles peuvent rester dessous et piétiner et bouger, il n'y aura pas ces phénomènes de surcomptage où on va compter 50 fois la même personne. Donc avec le 3D, on est beaucoup plus précis dans la façon dont on va délimiter et où on va analyser la zone, en fait, de comptage.
Et avec l'effet tête, est-ce que vous avez une hauteur en dessous de laquelle la tête n'est pas décomptée ?
En fait, on fait le distinguo avec le 3D. On a la possibilité, comme c'est donc le 3D, c'est reconstituer la vision de l'œil, en fait, en trois dimensions. Et donc, on fonctionne avec des hauteurs et ça nous permet de distinguer les adultes, les enfants, en fait. Donc, effectivement, on met une calibration, en fait, de hauteur pour pouvoir faire ce distinguo-là.
Et donc, est-ce qu'il y a également des dispositifs d'enquête plus qualitatifs au musée d'Orsay ? Est-ce que vous pouvez nous les présenter un peu ?
Alors, je ne vais pas bien vous les présenter parce que ce n'est pas du tout mon département, mais il y a un service de l'accueil qui fait des enquêtes régulières sur la fréquentation pour connaître l'origine et tout type de profil du public qui vient visiter. Ce n'est pas du tout ma compétence.
En fait, tout ce qui est ces enquêtes, en fait, et je rebondis sur la question de madame tout à l'heure sur les données Orange, en fait, ça n'aura jamais vocation à remplacer un système de comptage quel qu'il soit, mais ça, ça va nourrir et ça va permettre de, d'étoffer la donnée, au contraire. Il y aura toujours besoin, quand on parle de fréquentation, et quand, surtout quand on veut s'en servir et quand on veut communiquer avec, la chose la plus importante, c'est d'avoir une donnée la plus précise possible. Sinon, effectivement, c'est source de frustration pour les gens à qui on va communiquer, un temps d'attente qui va être erroné, avec une information qui n'est pas là où on l'attend, en fait. Donc, il faut d'abord avoir une donnée précise. Et après, avec cette donnée précise-là, on la valorise et on l'améliore avec soit des enquêtes manuelles, soit des données avec Orange qui sont les publics. Mais ça va toujours venir en complément, ça ne pourra jamais remplacer, parce que cette donnée-là, elle n'est effectivement pas précise, elle est statistique.
Et pour l'archivage des données, parce que finalement, avec le type 3D, là, c'est une image qu'on prend.
Non, effectivement, vous faites bien de me reprendre. Il n'y a aucun enregistrement d'image qui est fait. En fait, on a besoin de la forme de la tête qui est immédiatement transformée. C'est du passage à la volée, en fait.
En fait, on a une image, on voit une ombre, simplement, ce qui est stocké.
Pardon, je n'ai pas
entendu. C'est une ombre qui est stockée.
Ah, d'accord. C'est même un chiffre, en fait. Ouais.
Oui. Ouais.
Ouais. Oui, c'est transformé en algorithme immédiatement. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. D'accord. Oui. Donc, en fait, il n'y a pas de stockage d'image.
Il n'y a aucun stockage. On ne garde aucune image. Donc, du coup, c'est très léger aussi. Si on va plus loin dans le stockage, c'est très léger aussi dans le stockage, soit chez le client qui souhaite héberger ces données-là pour pouvoir faire ses requêtes, soit qui est hébergé par nous pour restituer, en fait, en mode SaaS après, les données de comptage. Et l'avantage, c'est que comme c'est une web application, nous, ce que l'on fournit, simplement à l'aide d'un nom d'utilisateur et mot de passe, depuis n'importe quelle application web, téléphone, smartphone, tablette, en se connectant, vous pouvez avoir les données immédiatement en temps réel et également a posteriori. Mais du coup, c'est beaucoup plus léger.
Ça, c'est très important, hein, parce qu'en effet, sinon, il faut acheter aussi des serveurs pour des images. Mais l'ensemble de votre service, justement, ça comprend la maintenance également des capteurs et visiblement aussi l'archivage possible. Enfin, l'archivage au sens, les données sont stockées, vous avez dit, et ça peut être stocké chez vous.
Ça peut être stocké chez nous, voilà, c'est au choix. Voilà.
En l'occurrence, c'est stocké au musée ou c'est stocké par le musée, d'accord.
L'option de les stocker sur le site.
Et quel est justement, je ne sais pas si ça marche toujours bien, quel est justement votre service de maintenance? Vous intervenez sous quelle forme? Il y a quelqu'un qui est toujours présent dans le coin, parce qu'ils ne viennent pas d'Ardèche pour réparer les capteurs. Donc il y a quelqu'un qui... Où c'est laissé à la responsabilité du musée ou
alors,
pas?
Là typiquement, au niveau du musée, alors, ces systèmes-là sont aussi monitorables aussi à distance, donc avec de la télémaintenance, ce qui permet d'être très réactif aux besoins. Donc effectivement, pour le musée d'Orsay, on est en formule de télémaintenance. Ils ont également des équipes qui sont formées à l'intérieur du musée pour pouvoir intervenir. Et sinon, s'il y a besoin d'une intervention plus particulière, on a une personne sur place sur Paris. On a des sous-traitants qui interviennent sur Paris et puis partout en France qui peuvent intervenir dans la journée.
Et dernière question. Donc là, visiblement, c'est un système qui fonctionne bien et qui rend les services attendus de la part du musée. C'est quoi vos perspectives d'évolution? Qu'est-ce qui devrait être amélioré, justement, ou sur lesquels vous faites des recherches actuellement pour améliorer les systèmes?
Alors, Acorel a développé un département qui s'appelle Acomove, qui est aujourd'hui en charge de toute l'étude sur tout ce qui pourra être les capteurs de demain, donc qui vont être consommés moins en énergie, qui vont s'interfacer avec des modes de communication LoRaWAN, qui vont pouvoir fonctionner avec la lumière, qui permettent d'être beaucoup plus légers et beaucoup moins intrusifs, en fait, sur sur l'installation. On s'intéresse aussi beaucoup à l'intelligence artificielle, sur lesquelles on a possibilité aujourd'hui de rajouter sur des caméras de surveillance qui sont installées, par exemple, à l'intérieur des musées ou à l'intérieur des bibliothèques. On se resserre en fait de ce flux d'images sur lequel on met de l'intelligence artificielle. Et là, on n'est pas sur du comptage de précision, on est ce qu'on appelle sur du dénombrement. Parce qu'encore une fois, avec une caméra qui a vocation à faire de la reconnaissance, à être dans de la sécurité, elles n'ont pas des positionnements de comptage. Donc on se resserre en fait, c'est une solution à coût maîtrisé en fait, où on va se resservir de l'existant, mais par exemple sur des caméras de vidéosurveillance, une personne va pouvoir masquer quelqu'un qui est derrière elle. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas sur de la précision, mais sur du dénombrement, sur lequel on va dire, cet espace-là est plein à 80%, est plein à 50%, mais on ne pourra pas donner un chiffre quantitatif de personnes présentes.
Et par rapport au public majoritairement présent dans la salle aujourd'hui, c'est-à-dire des collègues issus de bibliothèques municipales, vous envisagez de développer un service? Enfin, je ne pense pas qu'il y en ait parmi vos clients, mais peut-être que je me trompe. Et est-ce que vous pourriez envisager de développer un service qui serait abordable et utile et au quotidien par les bibliothèques municipales?
Mais bien évidemment. Venez me voir. J'ai plein de cartes de visite, c'est avec grand plaisir. Oui, bien sûr, on a des solutions qui sont adaptées à tout budget, à toute demande. Et encore une fois, Aquarel n'est pas une société qui vend des capteurs. On est vraiment c'est vraiment un service. Donc c'est pas une technologie. Aujourd'hui, encore une fois, je mets l'accent sur le 3D parce que c'est vraiment chez Aquarel, mais chez d'autres de mes confrères, aujourd'hui, c'est la solution la plus aboutie. La valeur ajoutée qu'a Aquarel aujourd'hui, c'est qu'on est dans l'étude d'un environnement, dans l'étude d'une implantation, et que l'on va vous proposer une solution qui va être adaptée aux attentes et aux besoins. Donc n'hésitez pas à venir me solliciter, ce sera avec grand plaisir.
Bonjour. Par rapport aux caméras 3D, un enfant qui est porté par un individu, est-ce qu'il est capté tel qu'une ombre individuelle ou double ?
Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu.
Un enfant qui est porté par un parent ou un individu, est-ce qu'il est comptabilisé lors du passage ?
Alors, normalement, ils sont comptabilisés à deux, mais c'est typiquement des erreurs qui peuvent être sur lesquelles le capteur peut faire une erreur. Deux amoureux qui passent collés l'un à côté de l'autre. Normalement, encore une fois, ce système est capable de distinguer deux têtes, mais ça peut faire partie, effectivement, des erreurs. Aujourd'hui, le 3D est à plus de 99% de précision. Par contre, comme il a été dit précédemment, il y a, quoi qu'il en soit, dans tout système de comptage, une erreur récurrente qui va se cumuler au cours de la journée et qui fait qu'en général, en fin de journée, on n'est jamais à zéro. Il va rajouter toujours 1, 2, moins 1. Voilà, c'est une petite erreur récurrente. D'où l'intérêt aussi de l'automatisation du système qui a aussi des possibilités de remise à zéro pour éviter de faire cette erreur récurrente. Et autre chose aussi très importante, il serait aussi faux de dire qu'avec un système de comptage, quel qu'il soit, vous vous dédouanez aussi de tout système de sécurité. Ça n'a pas vocation à remplacer un agent de sécurité en cas d'incendie ou quoi que ce soit. Il se peut qu'il y ait noté 2 sur le logiciel, alors qu'il en reste 4 ou alors qu'il en reste 0. Voilà, c'est vraiment un outil d'aide à la décision, mais il serait dangereux dangereux de dire que ça remplace l'humain, en fait.
Dernière question. Est-ce que la lumière est indispensable pour le comptage? Je pense aux bibliothèques qui font la nuit de la lecture, où on a souvent des lumières éteintes ou atténuées.
Ouais.
Est-ce que ça fonctionne quand même?
Alors, ça fonctionne parfaitement, puisqu'en fait, le capteur a besoin de 3 lux pour compter. Alors, 3 lux, c'est un éclairage à la bougie. Voilà. pour vous donner une idée. Donc effectivement, on n'est absolument pas impacté ni par le manque de luminosité, ni par trop de luminosité, ni par des phénomènes de soleil, par exemple, qui taperaient, qui feraient des ombres également. Il n'y a pas de surcomptage avec ça non plus. Voilà, encore une fois, c'est le capteur qui vous permet d'être le plus précis aujourd'hui dans le comptage.
Merci.
Je vous en prie.